Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant! Vous commencez à entendre des moteurs rugir pendant que vous dormez? Vous cauchemardez d'un Grand Prix annulé pour cause de pluie? Vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes en manque. Deux week-ends consécutifs sans Grand Prix, ça laisse des traces. Mais bonne nouvelle, la F1 reprend le week-end prochain à Singapour et on va patienter d'ici là avec Stéphane Vrignot.
Salut Gilles.
Salut Stéphane, on a quelques vérités qui sont toujours bonnes à dire et vous allez voir que celles-là, elles ne sont pas piquées des hannetons. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va parler du calendrier 2023 qui est sorti la semaine dernière. Allez, incohérence et hypocrisie.
On marche sur la tête.
Exactement.
Voilà. Et puis sur d'autres sujets ou d'autres points qui concernent l'avenir du sport.
On va en parler. On n'est pas très très content pour tout vous dire. Alors, ensuite, on va parler de cette fin de saison 2022. Il reste 6 grands prix. Il y a beaucoup d'enjeux en cette fin de saison. On partira du principe que le titre des pilotes n'est plus en question. Mais on va s'intéresser à la quête des places de vice-champion chez les pilotes, chez les constructeurs. Et puis on évoquera évidemment aussi le duel entre Alpine et McLaren. Et puis pour conclure, troisième sujet, on reviendra sur le prix de revient de chaque effectif de pilote, parce que Stéphane a commis un superbe article sur Eurosport.fr sur le prix de revient pilote par pilote, et on a élargi à chaque équipe et en tenant compte des salaires des pilotes et des points rapportés, bah vous verrez qu'on a quand même quelques surprises sur ce calcul. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui avec la publication. Alors ça remonte à quelques jours, hein, c'était la semaine dernière. Le calendrier 2023 publié par la Formule 1 et par la FIA. 24 épreuves, donc c'est un record. Réparti de début mars au Bahreïn à fin novembre à Abu Dhabi. Pas d'épreuve en France, ça malheureusement on le savait. Mais ce qui a attiré notre attention, Stéphane, le premier point, on va dire, c'est quand même l'hérésie des déplacements, hein. Un voyage à Miami entre l'Azerbaïdjan et Imola, déjà ça laisse perplexe. Celui pour aller au Canada entre l'Espagne et l'Autriche, et là finalement on se demande un petit peu où on va quand même.
Ben, en fait, le promoteur et les autorités à la FIA nous disent qu'il faut un championnat un petit peu plus responsable et on continue de nous produire en fait des calendriers ne sont pas vertueux sur ces questions-là environnementales, puisque la Formule 1 dit se préoccuper de ces questions-là, mais en fait, dans les faits, ça n'est pas encore exact, je dirais. On est loin pour l'instant de la neutralité carbone proclamé en 2030. J'ajoute que l'objectif là, actuellement de la FIA, c'est d'avoir une logistique beaucoup plus rationnelle, de réduire les coûts de fret. Donc on nous dit qu'on réduit les effectifs dans les équipes, le matériel, on emporte moins de choses dans les avions. Très bien, mais dans les faits, ben, on rajoute encore 2 grands prix l'an prochain, puisqu'en fait il y a 3 retours, Qatar, Las Vegas et la Chine.
Oui.
Et je note d'ailleurs qu'il n'y a aucune réserve sur aucun Grand Prix, ce qui est assez rare. Il y a toujours réserve contractuelle, etc. Et puis, il y a le Grand Prix de France qui a disparu. Alors, en plus, quand le président de la FIA nous dit « on a maintenu toutes les épreuves traditionnelles », bien, je dis non. Voilà, ouais. Tout simplement, parce que le Grand Prix de France manque. Et c'était un Grand Prix historique du championnat en 1950. Et on obtient quelque chose qui se veut vertueux, qui ne l'est pas. Je dirais, on marche un petit peu sur la tête, tu as dit Gilles, sur ces déplacements. On traverse la planète, c'est pas grave, on revient en Europe et puis on retourne en Amérique du Nord, puis on viendra après. L'objectif, c'était vraiment de dégager trois zones géographiques et de faire tout en même temps. Mais le problème, là encore, Gilles, c'est que pour développer l'aspect commercial de la Formule 1, on va faire trois grands prix aux États-Unis qu'on est obligé de scinder parce qu'autrement, il y aura un effet de groupe.
C'est qui ça. Il y aura une logique, on va dire, rationnelle, qui serait de dire bah, on va faire les trois grands prix les uns à la suite des autres, et on pouvait même rajouter celui de Montréal, mais là on vous dit bah non, en termes de spectacle ils vont se cannibaliser, c'est pas du tout rationnel, il vaut mieux revenir plus tard à un autre moment dans la saison. C'est quand même un petit peu compliqué à admettre. Il y a aussi une saison qui s'étale en longueur. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il n'y a pas de clash avec les 24 heures du Mans.
Ils ont regardé ça de près, c'est pour maintenir en fait l'anniversaire des 100 ans, voilà, des 24 heures du Mans. Ça veut dire potentiellement qu'on peut avoir des pilotes de Formule 1 tenter de s'engager aux 24 heures, même si ce seront avec des voitures nouvelles qui ne seront peut-être pas très fiables, avec des résultats assez aléatoires. Mais sur le plan du symbole, je trouve que c'est très fort. Et le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a dit que c'était une très grande épreuve aussi, les 24 heures du Mans. Je dirais que c'est un duel gagnant-gagnant. Et là, on tourne la page un petit peu de l'ancien monde, des années Ecclestone, qui se faisait un malin plaisir de mettre une date, souvent le Grand Prix du Canada, en face des 24 heures du Mans.
Alors, on va démarrer aussi plus tôt que d'habitude. En général, c'était plutôt fin mars, le début de la saison. Là, on anticipe un petit peu, forcément. Il y a un peu plus de Grand Prix, mais pas que.
Oui, alors là, c'est début le 5 mars et c'est le début le plus précoce depuis 21 ans, depuis 2002. Pour une raison simple, en fait, c'est le début de la période de Ramadan. Alors en France, officiellement, ce sera le 22 mars et le promoteur du championnat, la FIA, ont voulu en fait placer ces deux épreuves au Moyen-Orient juste avant cette période. C'est la raison pour laquelle on a un début de championnat décalé et ça peut-être été aussi un petit peu anticipé, Gilles, parce que le championnat de cette année, en fait, se termine aussi trois semaines plus tôt que celui de 2021. Donc, les équipes, les pilotes vont avoir à peu près le même temps de repos, mais ce qui veut dire aussi qu'on va peut-être avoir les voitures qui vont sortir, même forcément, plus tôt dans la saison, je pense. Début février, on aura déjà les présentations et les roulages.
Ouais, exactement. Voilà donc pour les grandes lignes.
Tu parlais aussi de ces aberrations en fait de déplacement. Je crois que tu as un chiffre sur la totalité des déplacements.
J'ai lu, on est à plus de 130 000 km de distance. Alors vous allez me dire, quand on voyage en première classe, ça peut se faire bien. Bon, les mécaniciens, eux, ils sont pas du tout en première classe. C'est là qu'on se dit, alors évidemment, il y a déjà le coût carbone de tous ces déplacements, le coût en matière de fatigue, ça veut dire qu'il faut avoir un double effectif minimum pour pouvoir faire ce genre d'épreuve. Là, on se dit que l'économie, elle est quand même difficile à voir. Et je vais te dire le fond de ma pensée, je ne suis pas tant choqué par l'attitude de la Formule 1 en elle-même. La Formule 1, c'est une organisation, c'est une entreprise privée qui essaye finalement de rentabiliser au maximum le spectacle qu'elle produit. Alors, on peut être choqué, on peut ne pas être choqué, on vit dans un monde capitaliste, c'est comme ça. On peut y trouver une certaine logique. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est la FIA. Que fait la FIA dans toute cette histoire à homologuer ce calendrier? Je veux juste rappeler que la FIA est une instance internationale qui a été reconnue par le Comité international olympique, qu'il y a une charte olympique avec un accord cadre entre les Nations Unies et le CIO. Ça a été lancé en 2018. Le CIO qui a même rédigé une série de documents à l'intention des comités d'organisation des Jeux Olympiques et auxquels se conforme le comité olympique d'organisation de Paris 2024, et aussi des fédérations internationales justement pour leur donner des clés en matière de développement durable par rapport aux épreuves qu'elles organisent. Il y a aussi l'Association mondiale des fédérations sportives, dont fait partie la FIA, qui a lancé un portail qui s'appelle sustainability.sport, avec des documents qu'ils mettent à disposition de chaque fédération internationale, justement pour minimiser l'impact de chacune de leur épreuve. Et finalement, là, on a le sentiment que, ben, en fait, on signe, et puis on fait strictement l'inverse, sans grand égard pour, finalement, les principes auxquels on est censé adhérer. Je trouve que c'est pas normal. Et le président de la Fédération internationale de l'automobile, il devrait renverser la table et dire, hey, on s'est engagé à certaines choses, on a une parole, on les tient. Et ben non, là, j'ai quand même le sentiment que on s'incline devant... devant l'organisateur et qu'on dit bon ben on y va.
On est toujours dans cette démarche un petit peu de progrès, de tendre vers cet objectif, je pense quand même. Alors, il faut rappeler quand même une chose très simple, c'est que le promoteur, il démarche des organisateurs locaux qui financent, qui font un montage financier et qui proposent en fait une candidature d'un Grand Prix au promoteur du championnat du monde. Et c'est ensuite le promoteur du championnat qui s'arrange pour essayer de caler des dates en fonction des demandes des uns et des autres. C'est pas toujours facile, on a des incohérences, c'est vrai. Espérons qu'on en ait de moins en moins. On a deux triple leaders, c'est-à-dire trois semaines de course à la suite. Le premier, c'est en Europe. Le deuxième, c'est en Amérique, États-Unis, Mexique, Brésil. Donc tout ça, c'est assez cohérent. C'est ce qu'il faudrait respecter. Mais je dirais qu'on n'est pas encore effectivement dans ce schéma-là. On approche aussi la règle des trois tiers, c'est-à-dire huit courses en Europe, huit courses en Asie, huit courses en Amérique. Je crois qu'il y en a neuf programmées l'an prochain en Europe. Donc huit en Asie, donc sept en Amérique. Donc on arrive à cet équilibre, mais je trouve un petit peu trop lentement. Et puis moi, on arrive là au Grand Prix de Singapour, et je note aussi une autre forme d'incohérence par rapport à toutes ces préoccupations climatiques. On nous le répète, bon, ben, il y aura 5 Grands Prix de nuit. Ça sert à quoi aujourd'hui un Grand Prix de nuit? On peut faire la course à un horaire tout à fait normal à Singapour, comme on le fera d'ailleurs hein, au Japon, et puis on se lève à 5h ou 6h du matin. C'est une autre expérience, voilà. Et puis,
Mais ça fait moins de monde devant les télés.
Pas forcément, je ne sais pas. Mais si on veut être vertueux, il faut l'être jusqu'au bout et il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est tout. Ou alors, si on parle d'un système de rotation, parce que ça aussi, c'est le grand mot, bon, eh bien, qu'on organise une ou deux courses dans l'année de nuit, et pas plus, et puis qu'on installe un système de rotation. Là, il y a le retour du Grand Prix de Las Vegas de nuit. Alors, on comprend un petit peu Las Vegas, forcément, mais ça fait une course de plus. Voilà. Donc, c'est une incohérence de plus. Et puis, à côté de ça, Gilles, quand même, ce qui est formidable, c'est qu'on dit, ah oui, mais par contre, en 2024, nous allons supprimer les couvertures chauffantes sur les pneus pour les réchauffer avant de les installer sur une voiture, au pit stop ou au départ d'une course, parce que, un, c'est une question de coût, et puis deux, là encore, c'est pour l'équilibre climatique. Donc, mais franchement, là, c'est un océan, et puis en face, une goutte d'eau. C'est aussi simple que ça, et il y a une forme un petit peu aussi de non-sincérité là-dessus. Voilà. J'ai envie de dire d'hypocrisie, tout simplement.
Oui, oui, oui.
Alors, ça va un petit peu faire des économies pour les équipes, mais franchement, il y a quelque chose de dérisoire là-dedans.
Et alors, il y a aussi un autre élément, pour l'instant, qui est resté un petit peu dans les tiroirs. On sait que cette saison, il y a trois Grands Prix, puisqu'il en reste encore un où il y a une course sprint, hein, le samedi. Là, on n'en a absolument pas fait mention. Il y en aura en 2023, mais on n'en a pas parlé encore. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça dégage en fait un petit peu l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui se font en sous-main sur le format sportif des Grands Prix. On essaye un petit peu de faire passer des choses, même si on a parfois des études qui montrent que les fans de Formule 1 ne sont pas forcément pour. Eh ben, c'est pas grave. On va quand même avancer. Stefano Domenicali, en ce moment, il a envie de tout casser dans le format des Grands Prix.
Tu le vois, effectivement, ce calendrier, en fait, il est fait par le promoteur. Et moi, ce qui me gêne aussi un petit peu, c'est que c'est le promoteur qui s'occupe des formats. Et la FIA, en fait, prend acte, tout simplement.
Encore une fois, que fait la FIA ?
Ouais. Alors, c'est un organisme de régulation, en fait, qui produit des règlements sportifs, techniques, mais qui a perdu, en fait, tu sais, Gilles, depuis l'arrivée des sponsors en Formule 1 en 1968. Il y a un aspect commercial qui est devenu prépondérant. L'argent est entré dans le sport et la FIA n'a pas pris la main là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est très malin, qui était directeur d'une écurie, Bernie Ecclestone, qui a dit « Bougez pas, je vais m'occuper de tout ». Voilà. Et lui, il a complètement squeezé la FIA et ça continue. Bon. Et par rapport à ça, Stefano Domenicali dit maintenant il faut qu'on teste quelque chose de différent en forme, en format de qualification, quelque chose de nouveau, c'est la grille inversée.
Exactement.
Il y tient absolument. Alors, je rappelle qu'il y a eu deux études qui ont été faites de sondages là-dessus pour prendre un petit peu la température auprès des fans, et ça a été rejeté massivement, tout simplement. Alors, il y a des pilotes qui ont dit que c'était une bêtise monumentale. Il y a même Alain Prost qui a dit « si c'est comme ça, moi je m'en vais ». Alors c'est dommage parce qu'il est parti juste avant et j'aurais aimé qu'il parte sur quelque chose comme ça et là ça aurait quand même créé un malaise. Ouais. Bon, et là on est là-dedans et Stefano Domenicali il dit bah de toute façon en fait il faut tester des choses nouvelles.
Oui parce que ça s'arrête pas là.
Voilà, et puis il faut pas être bête, il faut avancer vers de la nouveauté.
On est obligé finalement, hein. c'est une des phrases qu'il a dit.
Il a dit
finalement.
Voilà, c'est ça. Alors le
on doit essayer, c'est ça.
La phrase. Nous devons essayer, il y a toujours beaucoup d'excuses pour ne pas le faire. Mm-hmm. Les puristes tourneront encore le dos le format de qualification a changé une douzaine de fois ces dernières années, alors pas que pour du bien, tu te souviens de l'écrémage toutes les 90 secondes qui avait été testé je crois en 2016, les équipes avaient dit que ça serait une catastrophe, la FIA l'a quand même fait, on est allé droit dans le mur quand même, hein. Et là aujourd'hui Stefano Domenicali nous dit c'est une nécessité pour un meilleur show, il te parle pas d'un meilleur sport. Il te parle toujours d'un meilleur spectacle.
T'énerve pas, voilà. Stéphane. Reste tout à fait. Et puis, alors, il y a ça.
Et puis, le pompon, voilà, oui. c'est là-dessus aussi, il y a des incohérences. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Là, il projette d'attribuer des points en essai libre. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, globalement, il ne doit pas y avoir un seul roulage sans que c'est un
sans
impact
sanction, en fait.
Sur le championnat. Tout simplement, donc il ne veut pas de ces séances d'entraînement comme ça qui servent pourtant aux équipes à travailler, à mettre au point les voitures sur un tour chrono et puis vérifier le comportement avec le plein d'essence, l'usure des pneus pour la course.
Bah, faire
ça,
le c'est, travail en fait de préparation
boulot,
d'un Grand
Prix. C'est le cœur même de la vocation des équipes, elles sont là quand même pour ça, autrement ça fait longtemps qu'on s'installerait et puis on ferait une séance de qualif direct et puis la course dans la foulée et puis on serait débarrassé. Donc lui il dit ça. Et il vise spécialement la séance d'essai libre 3 qu'il veut absolument remplacer par cette fameuse course sprint. Alors, avec en fait le matin pardon, des essais libres 3, donc c'est ça le samedi matin, une qualif tout à fait normale qui déterminera, si j'ai bien compris dans ses propos, si j'ai lu, la grille de départ du Grand Prix. Et il se servira aussi du résultat de cette qualif pour inverser le top 10 de la grille, ou alors carrément toute la grille, hein, pour faire une course sprint le samedi après-midi. Voilà, pour apporter des points, pour mixer un petit peu. Bon,
ça, c'est là, un format qui existe là, déjà
l'argument
dans d'autres
décisif,
catégories.
Oui, l'argument décisif, c'est que c'était passionnant parce qu'on a vu Verstappen en fait remonter très très loin en Hongrie, en Belgique, et que c'était possible et que ça crée du show. Bon, moi j'ai toujours dit, le championnat de Formule 1, c'est pas un championnat des remontées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est ce que je comprends pas bien. Et on a testé d'autres choses. Hein. La première chose qui a été faite, c'est le point du meilleur tour en course. Tu as vu ce que ça donne. C'est fait pour un ou deux pilotes en fin de Grand Prix parce qu'il a 25 secondes d'avance sur son suivant.
Et il peut faire un arrêt gratuit.
De faire un arrêt et de viser le point. Donc, c'est pour un ou deux pilotes. Donc, c'est quelque chose de complètement inéquitable.
On va terminer ce sujet parce que là on a fait un petit peu long par une expérience qui a été ramenée par des amateurs de Formule 1 qui voulaient s'acheter des billets, qui sont fait un peu piégés. Ça c'est un algorithme que vous connaissez tous, hein. Vous allez regarder les prix pour un événement ou même pour un billet d'avion par exemple ou un billet de train, hop, vous regardez, il y a un prix, c'est bien, hop, vous revenez le lendemain, c'est plus cher. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à des gens qui voulaient acheter leur billet du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Ouais, dans la même veine en fait de ce sport qui dit choyer ses fans, mais en fait qui s'en éloigne quand il est question de business, et bien là, sur la réservation du Grand Prix de Grande-Bretagne 2023, sur la première journée, il y a eu 210 000 demandes de tickets et il y avait les entrées générales qui étaient à 120 euros. En conversion livre sterling euro. Et puis ces gens-là étaient dans la file d'attente et puis ils pensaient effectivement qu'ils allaient avoir ce prix-là. Ils se sont fait sortir de cette file d'attente et quand ils sont venus, le prix avait triplé. Voilà. Donc du début de la commercialisation jusqu'à la fin, c'est le même produit, mais le prix triple. Et le promoteur du Grand Prix a dit oui, effectivement, c'est une erreur de notre part. Ils ont présenté leurs excuses. Alors les billets sont vendus, hein. Voilà, ça s'est fait.
Mais excusez-nous, on a pris
l'argent
quand même.
Mais il y a quelque chose qui tend vers l'élitisme et je trouve que la Formule 1 devient un sport de luxe. C'est fini le temps où on pouvait avoir la meilleure place sur un circuit dans des entrées générales et voir un super spectacle. Maintenant, ça devient quelque chose de réservé vraiment à une élite. Et puis le Grand Prix de Las Vegas aussi en sera encore une preuve. Il y a la MGM qui va acheter entre 20 et 25 millions d'euros de tickets pour les revendre sous forme de package ensuite. Donc effectivement, à ce tarif-là, bah, le promoteur, il sait qu'il y trouve son compte et tout le monde est content, sauf les spectateurs.
Bref, voilà ce qu'on voulait vous dire et qui découle du calendrier 2023. Bon, bref, on n'était pas content, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de Grand Prix depuis 15 jours et que bah, nous, quand il n'y a pas de Grand Prix, on n'est pas content. On va passer au deuxième sujet qu'on voulait développer aujourd'hui dans les fous du volant avec, avec Stéphane. Ce sont les enjeux du fin de saison, Il reste 6 Grands Prix. Singapour, là, qui va arriver très très vite. On enchaînera ensuite avec le Grand Prix du Japon. Après, le Grand Prix des Amériques, le Mexique, le Brésil. Et on terminera évidemment à Abu Dhabi. Alors, d'abord, pour le titre, au niveau
c'est
du...
payé.
Voilà, il y a 116 points d'avance pour Max Verstappen sur Charles Leclerc, 125 points sur Sergio Pérez et 132 sur Russell. Autrement dit, si Verstappen gagne ce week-end à Singapour, il faut que Leclerc fasse 8e ou 9e, ça dépendra du meilleur tour en course, et que dans le même temps, que Sergio Pérez ne fasse pas mieux que 4e. Bon, ça c'est juste un élément. Si ça ne se fait pas à Singapour, ça se fera à Suzuka et dans le pire des cas, même du côté des États-Unis, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la couronne 2022. Ça y est, Max Verstappen, il a fait le break.
Ça serait génial que ça se fasse à Suzuka quand même, le plus beau circuit de la Formule 1.
Exactement. Alors, on va surtout s'intéresser à la bagarre, par exemple, pour la deuxième place du championnat, puisque Charles Leclerc dispose de 219 points. Sergio Pérez en a 210, George Russell en a 203. Ça va donc essentiellement se jouer entre ces trois-là. On note quand même que Carlos Sainz, avec 32 points de retard sur Charles Leclerc, bah mathématiquement, il peut encore aller chercher cette place de vice-champion. Et que même Lewis Hamilton, finalement, avec 51 points de retard sur Charles Leclerc, quand on voit quand même il a eu une bonne moyenne là, sur ses derniers Grands Prix, bah, il peut aussi aller chercher ce titre de vice-champion. Parallèlement à ça, on va mélanger les deux sujets avec Stéphane, si tu veux bien. Il y a la deuxième place aussi du championnat des constructeurs entre Ferrari, 406 points pour la Scuderia, et Mercedes, 371 points, ça fait 35 points d'écart. Bref, on a le sentiment, on l'a dit, que le titre est joué. Derrière, il va quand même y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à suivre sur ces 6 derniers Grands Prix, à commencer par Singapour.
C'est le moment de t'engager sur un pronostic, Gilles. Deuxième du championnat pilote, deuxième du championnat constructeur.
Pas facile. Je crois quand même que Charles Leclerc va rester deuxième du championnat. J'ai du mal à vous dire, là ça va être séance de psychanalyse en 15 secondes, j'ai du mal à vous dire
on a une boule de cristal, là,
si
vous
c'est
la voyez
une
pas.
Prévision ou si c'est un souhait, parce qu'il mériterait quand même au moins de terminer deuxième. En revanche, je ne suis pas convaincu du tout que la Scuderia puisse résister au retour de Mercedes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, peut-être déjà un chiffre sur les 6 derniers Grands Prix, là, il y a un rapport de force entre à la faveur de Mercedes.
Oui, au championnat constructeur, sur les 6 derniers Grands Prix, 160 points pour Mercedes, 127 pour Ferrari. Là, c'est net. Voilà. Il y a une tendance qui est quand même lourde.
33 points en 6 Grands Prix, ça fait quand même beaucoup d'écart.
Tout à fait. Et là, quand même, on sent le vent du boulet là, médiatique. Depuis quelques jours, quand même, chez Ferrari, c'est en train de tourner parce que, justement, je crois qu'ils ont tous en tête maintenant cet objectif. Ils commencent à avoir peur, en fait.
Eh oui.
Ferrari commence à avoir peur.
Stéphane, après le Grand Prix d'Italie à Monza, on avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de pesanteur, là, et tout le monde est sur une autre planète. On s'était même un peu moqué de John Elkann. Là, ça y est, c'est parti. Mattia Binotto, qui va de sa petite phrase.
Allez, vas-y,
on t'écoute. Écoutez bien, ça vaut son pesant d'or.
Voilà, qu'il a déclaré ça au Festival du Sport à 30. Il manque à Ferrari la mentalité de gagneur de l'époque de Schumacher. Rien que ça, ça nous poussait à faire mieux après chaque victoire. Mmh. Voilà, c'est la recette du succès, de toute façon, de la continuité dans le succès, plus précisément.
Alors, c'était l'époque dorée de Ferrari avec effectivement Michael Schumacher, mais derrière ou devant, je ne sais pas comment vous voulez organiser ça, il y avait un certain Jean Todt à la direction de l'équipe quand même, et il y avait un certain Ross Brawn. Moi, je reprends la phrase et je me dis, il manque à Ferrari un Jean Todt.
Tout à fait. Alors, Binotto, il sait de quoi il parle parce qu'il a assisté à la première victoire de Ferrari en rouge, c'était à Montmelo en 1996 et toutes les suivantes. Parce qu'il était ingénieur motoriste.
La victoire de Schumacher.
Voilà, tout à fait. Il était ingénieur en... Alors, je ne sais pas s'il était précisément sur sa voiture. Il était avant sur la voiture de Jean Lézy. Il travaillait sur la voiture de Jean Lézy. Mais je note quand même que là, il y a une conjonction d'avertissements qui sont forts quand même. tu as parlé de John Elkann, on avait l'impression qu'il avait été catapulté d'une autre planète.
C'est ça.
On vous l'avait dit dans le garage Ferrari à Monza.
Les yeux un petit peu exorbités.
Voilà, dans la réalité, là, il a dit, nous apprécions ce qu'ont fait nos ingénieurs, mais le travail à Maranello, dans le garage, sur le pitwall, donc là où on prend les décisions, et au volant doit être amélioré. Au volant. Donc, il vise les pilotes. Nous avons vu trop d'erreurs en termes de fiabilité, pilotage et stratégie. Là, il englobe tout le monde. Hein. Il n'y a plus personne qui échappe à la sulfateuse. Là. Là, il fait un prix de groupe. Là.
Et ce qui est étonnant, finalement, c'est le moment où ça arrive. On a vraiment le sentiment, je ne sais pas quel est ton sentiment, Stéphane, mais on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas voulu faire de vagues avant le Grand Prix d'Italie. Tu sais, un petit peu comme certains gouvernements qui s'achètent une paix sociale avant la rentrée. Ouais. Hop, on fait baisser le prix de l'essence, tout ça. Alors surtout, on ne veut pas d'ennui. Bah là, avant le Grand Prix d'Italie, surtout, on ne voulait pas froisser les tifosi, on ne voulait pas les chauffer à blanc. Voilà, tout va bien et tout. Et derrière, c'est parti. Oui, t'as employé le mot sulfateuse. Je trouve que on est dans la bonne idée, quoi. Quand même, on a envoyé du lourd là.
Et tout à fait. Il y a quelques jours, c'est même très très récent. Il y a même Jean Todt qui était encore en train de parler à la Gazzetta, qui évoquait les sujets, les problèmes de Ferrari. Et c'était assez étrange parce qu'il parlait en employant le nous. Pour Ferrari. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui le touchait au cœur et tu sentais qu'il avait encore une influence dans l'équipe et il a peut-être déclenché cette prise de position différente et radicale quand même de John Elkann en disant attention, là on va couper des têtes à la fin de la saison si ça ne s'améliore pas. Et spécialement s'ils perdent la deuxième place du championnat. Ce que moi je crois qu'il va arriver. Franchement, chez les pilotes et chez les constructeurs.
C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que tu m'as demandé mon pronostic? Alors toi, tu penses que la Scuderia va perdre la deuxième place au championnat?
Alors figure-toi que.
Et pour la deuxième place du classement des pilotes, t'en vas pas! Alors ne la fais pas à l'envers, je veux ton pronostic.
Non, mais alors je te donne la déclaration de Jean Todt aussi parce qu'on a l'impression qu'il a presque soufflé les propos à John Elkann pour dire maintenant on siffle à la fin de la partie et on met Binotto sous pression parce que Binotto a réagi aux propos de John Elkann, évidemment, comment pouvait-il faire autrement, et de Jean Todt indirectement. Il a parlé des chances de Charles Leclerc d'aller chercher le titre, du moins d'être deuxième, de faire une belle fin de saison. Il a dit c'est un grand champion, il manque toujours quelque chose. Alors on ne savait pas exactement ce que c'était. Est-ce la voiture ? Point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose. Donc le pilote, voilà. Et là, il dit il lui manque quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une remise en question pour tout le monde. Et finalement, c'est assez marrant, mais tout le monde est maintenant aligné sur ce même objectif, sur ce constat. Et Binotto, il a simplement dit une chose. Je confirme, il faut changer. Il n'y a pas de genre à changer. Il faut simplement se mettre au travail et avoir cette culture de la gagne. Ouf, enfin. Ouais. Bon, alors moi, j'attends simplement maintenant un comportement collectif de Carlos Sainz, qui la joue quand même assez souvent perso. Et tu sais, c'est un petit peu comme le problème qu'ils ont chez les Rouges en MotoGP. Les consignes d'équipe, on a du mal à en donner, ça va peut-être leur coûter cher. Et là, chez Ferrari, il va peut-être falloir aussi donner des consignes d'équipe à Carlos Sainz, lui demander de rouler pour Charles Leclerc jusqu'à la fin pour sauver ce qui peut encore l'être. Une deuxième place au championnat pilote, une deuxième place au championnat constructeur, mais franchement, j'en doute fort.
Monsieur Vrignot, je réitère ma question. Quel est votre pronostic pour la deuxième place du championnat pilote?
Russell.
George Russell, ah
tout
ouais.
À fait. Okay. Tout à fait.
Wow. Quatrième en ce moment, donc il passerait Sergio Perez aussi.
Il est quatrième, il n'a pas
Charles
beaucoup
Leclerc.
De retard.
Non,
on l'a dit. Cité.
Ouais, il a 16 points de retard sur Charles Leclerc. C'est vrai que c'est très, très serré.
Oui, tout à fait.
Donc George Russell, ok. Intéressant.
Alors, oui, et moi, on en reparlera juste après. On va vous dire pourquoi est-ce que, à mon avis, aussi, ce Grand Prix de Singapour va lancer vraiment la conquête vers la deuxième place, vers les deuxièmes places pour Mercedes. Je regarde sur le mini-championnat des 6 dernières courses. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Lewis Hamilton, premier, avec 78 points. Deuxième, George Russell, 72. Là, c'est clair. Après, Leclerc-Pérez, 68. Sainz, 66. Mais ça veut dire que ça revient très fort chez Mercedes. Et qu'on va avoir quand même des arguments pour ça. Et dès Singapour, Toto Wolff a pris une position assez claire là-dessus. Il a dit normalement, c'est un Grand Prix qui convient bien à notre voiture, un circuit qui convient bien à notre voiture, à part les bosses. Ça fait peur un petit peu à tout le monde, ces bosses, parce qu'on est dans un circuit en ville.
Eh oui.
Donc, c'est le trafic, en fait, au quotidien qui crée ça. Les poids lourds, les choses comme ça, qui font que le bitume s'abîme beaucoup plus que sur une piste normale. C'est logique. Et il a dit, Toto Wolff, donc le directeur d'équipe, les simulations disent que ça doit être l'une de nos meilleures pistes d'ici la fin de la saison. Et il y en a une autre qui a inventorié George Russell. Il a dit, pour moi, la meilleure piste de la fin de la saison, c'est Austin. Donc, ça veut dire qu'ils en ont au moins deux où ils vont se sentir très forts. Pourquoi ? Parce qu'on charge les voitures en appui aéro. Des courbes quand même assez rapides, des reprises, pas beaucoup de Vmax parce qu'il n'y a pas de longue ligne droite. Donc, normalement, c'est un cocktail qui va convenir à Mercedes. Et je dirais, bon, bah, maintenant, il faut faire un petit peu attention à Ferrari. Faudra tout aligner pour les battre. Sur ce mini-championnat dont je te donnais le classement avec Lewis Hamilton et Russell, premier et deuxième, il faut noter qu'il n'y a pas eu d'événement exceptionnel. Les cinq pilotes que j'ai cités ont chacun un abandon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène, quelque chose d'extérieur. Tout le monde a eu sa dose un petit peu de problèmes de fiabilité. Ouais. Donc ça, c'est
ou
presque
d'accident
à la
régulière.
Voilà. En début de saison, on sait que Verstappen a pris du retard parce qu'il a cassé, je crois, sur les deux des trois premiers Grands Prix.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il a eu du mal à revenir sur Charles Leclerc. Et puis là, Mercedes, en fait, c'est les affaires courantes maintenant et ça monte en puissance. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Russell va aller chercher cette deuxième place ? Il a dit quelque chose un petit peu étrange, lui veut gagner en fait. Il n'a pas gagné son premier Grand Prix et c'est ça qui le tracasse de plus en plus. C'est ce qui lui permettrait d'envoyer un petit taquet encore à Lewis Hamilton parce qu'il a fait la pole position, il a signé Hongrie la pole position de l'équipe et maintenant il voudrait aller chercher cette victoire. Pourquoi pas ? Il a dit je préfère gagner deux Grands Prix et finir hors du top 3 au championnat que ne pas gagner et puis finir deuxième. Bon, mais il a dit en même temps, évidemment, nous allons essayer de battre Ferrari. Entre parenthèses, je suis là d'abord pour apporter des points à Mercedes au championnat constructeur. C'est celui qui rapporte de l'argent. Et donc, mais je suis là pour gagner. Donc, c'est un petit peu un mélange des deux. Mais je pense qu'ils sont focus sur les deux objectifs.
Ils progressent en communication, en tout cas, George Russell. Un petit mot, rapidement, quand même, sur cette bagarre pour la quatrième place entre Alpine et McLaren. Alpine, 125 points au classement des constructeurs. McLaren, 18. L'écart s'est un petit peu réduit, hein, puisque les deux Alpines ont terminé hors des points du côté de Monza. 18 points, ça fait pas beaucoup. Hein. Il en reste 279 possibles pour chaque équipe sur la fin de la saison. Il va pas falloir se relâcher la pression du côté de chez Alpine, hein, quand même.
Ah ben, non, mais là, ils ont le rythme, surtout. Là, c'est pareil, mini-championnat. Je compte combien sur les 7 derniers Grands Prix ? 75 points pour Alpine, 36 pour McLaren. C'est net. Et ce Grand Prix de Singapour peut aussi marquer vraiment le début de l'échappée pour les Bleus, qui vont installer, en fait, qui arrivent avec un nouveau plancher à Singapour. On parle de la plus grosse évolution sur la voiture depuis le début du championnat, quelque chose qui, c'est Alan Permain qui le dit, qui est directeur sportif, il dit ça doit nous mettre là où on doit être, c'est-à-dire encore plus près
du
top 3, voilà, c'est ça, avec peut-être un rôle d'arbitre sur un Grand Prix qui sera favorable aux conditions de fonctionnement de la voiture, mais ils sont surmotivés. Il a même dit ça doit marcher à Singapour, il n'y a pas de raison. Et ça doit surtout marcher à Suzuka. Donc là, ils ont deux jokers à battre pour distancer vraiment McLaren. C'est là où peut se jouer vraiment cette quatrième place au championnat des constructeurs. Il y a eu un petit bémol, simplement, d'Esteban Ocon qui a dit ça va être horrible sur les boss. Ils ont tous peur de ça. Mais Permain a dit, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que Esteban a parlé de ça, parce qu'il n'y a pas réellement des grandes vitesses à Singapour, et on sait que le problème de marsouinage qui est évoqué là et qui empêche une voiture de bien fonctionner se révèle surtout, se déclenche surtout à grande vitesse.
Ouais.
Donc on verra, s'ils sont bien à Singapour, le reste là ça va dérouler.
Bon, normalement, on est à peu près d'accord. On met Alpine favori pour gagner cette quatrième place du championnat devant McLaren.
Résister
jusqu'au bout.
Oui, tout à fait. J'espère. Et puis, ça nous ferait plaisir quand même qu'ils leur mettent un petit taquet chez McLaren.
Et on vous rappelle, hein, que, évidemment, en suspens, l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine. On sait que ça avance lentement. A priori, ça a l'air quand même d'être bien engagé, même s'il y a pas mal de choses à mettre au point. Et ça, évidemment, on vous donne le conseil de suivre tout ça sur eurosport.fr parce que le jour où ça sera officiel, dans la minute qui suivra, ça sera évidemment mon copain Stéphane qui vous fera un article et qui vous annoncera ça. On sera pas loin d'être en pôle hein, sur cette info.
Oui, mais Gilles, on sent quand même hein, dans les médias une effervescence, quelque chose de très fort, moi que j'ai pas connu quand même depuis plusieurs années. Il y a un engouement autour de Pierre Gasly, vraiment. C'est pas qu'on l'attend comme le sauveur, mais pour tourner la page de cette histoire Piastri et puis nous faire une écurie quand même qui va.
J'allais dire péter le feu.
Ouais, voilà, c'est ça en bleu, blanc, rouge. Et on a envie de voir quand même ce que ça donne et ne soyons pas pessimistes sur la cohabitation.
Exactement. On passe à notre dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui dans les fous du volant, le prix de revient de chaque effectif de pilote en cette saison 2022. Alors il reste 6 grands prix quand même, mais on en a fait quand même déjà 16 et on a fait donc un petit classement. En fait, le principe de base, c'est celui qui a conduit Stéphane à écrire un article qui a suscité beaucoup de réactions sur le prix de revient, mais pilote par pilote tout au long de la saison. C'est là qu'on a vu qu'un George Russell était finalement le pilote le plus rentable du plateau 2022, et puis qu'à l'inverse, un Nicolas Latifi était finalement le moins rentable, parce que Nicolas Latifi, eh bien, si vous êtes étudiant en lycée et que vous cherchez un exemple de la fonction infinie, bah, sachez que, voilà, par exemple, le rendement de Nicolas Latifi, il est infini.
Il coûte un prix infini.
Il coûte un prix infini, oui, parce que il est quand même...
Pour un million d'euros de,
pour un million
de
d'euros,
salaire,
ça ramène zéro.
Zéro point.
Donc, un million divisé par zéro, ça fait l'infini.
Voilà.
Et c'est quand même une certaine prouesse. Bon, on se moque, mais je pense pas qu'on en marquerait beaucoup des points. Sur ce classement des effectifs, là, cette fois, on fait l'exercice équipe par équipe. Et bien, alors, première surprise, l'équipe la plus rentable, Stéphane, c'est Haas, qui a un budget de 1 million d'euros donc pour ses deux pilotes, et qui a quand même marqué 34 points, ramené essentiellement par Kevin Magnussen, mais Mick Schumacher en a quand même ramené lui aussi quasiment la moitié, ou le tiers, on va dire. Et donc, ça fait 29 000, un petit peu plus de 29 000 euros par point marqué. Bon, c'est le budget pilote le plus faible de tout le plateau. C'est le prix de la présence, en fait.
Ouais, c'est des petits salaires parce qu'ils sont payés après par leurs sponsors perso, mais c'est pas, ils se payent comme ça, je dirais. Mais c'est ce que coûte, c'est ce qu'ils coûtent à Haas. Et comme tu le dis, c'est juste la présence, c'est-à-dire donner de la visibilité à des sponsors. Alors Haas, en plus, il travaille pour lui, puisqu'il promeut ses machines-outils. C'est un commerce très florissant aux États-Unis. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est l'écurie en kit, un petit peu, faite en sous-traitance chez Ferrari, de bric et de broc. Hein. Ils ont des antennes un petit peu partout, Banbury en Angleterre pour le montage officiellement. Pour le design, c'est Maranello à 100%, la soufflerie aussi. Et puis après, pour Netflix, c'est Canapolis, c'est-à-dire qu'on fait des images là-bas pour dire que c'est une écurie américaine, mais ça tourne avec un tout petit budget.
Et heureusement, parce que rappelez-vous la défection du sponsor titre de l'équipe avant le début de la saison, qui était russe, sponsor titre. Heureusement qu'ils sont finalement avec un budget assez réduit, mais c'est eux donc qui, au nombre de points marqués par rapport à leur budget pilote, sont les plus rentables avec un petit peu plus de 29 000 euros. Ensuite, deuxième position, alors là c'est surprenant, c'est Ferrari, donc avec un budget pilote de 14 millions d'euros, un total de points inscrits de 406 points avant le Grand Prix de Singapour, évidemment, ça fait, allez, on va dire un peu plus de 34 000 euros du point. Voilà, c'est le budget pilote contenu associé à ce qu'était la meilleure voiture du plateau sur, on va dire, la première grosse moitié de la saison, et ça vous fait un excellent rendement.
Et la preuve en est donnée par le rythme de développement. Mattia Binotto a souvent dit, en fait, on ne peut pas introduire des pièces à toutes les épreuves parce qu'on a un budget cap, on est là-dedans et on veut le respecter. Alors, bon, ça c'est son discours à lui parce que peut-être qu'il ne peut pas développer la voiture plus vite, mais il y en a d'autres qui ont des comportements bien différents. Et je dirais que pour un top team, ça tourne bien. C'est sûr que là, c'est presque le modèle le plus vertueux pour une équipe qui gagne.
Exactement. Clairement. En tout cas, pour une équipe qui est aux avant-postes et qui brigue le titre. Parce que la troisième position, c'est Red Bull. Et là, on est Voilà, on disait un bon compromis pour Ferrari. Bah, on est sur un équilibre haut du côté de chez Red Bull avec un budget de un pilote de 35 millions d'euros. Bon, il y en a 30 déjà, rien que pour Max Verstappen. Mais oui, mais un total de 545 points. Donc, on a scoré beaucoup, ce qui veut dire qu'au final, on a un rapport au point de 64 000 euros par point.
Le double de Ferrari quasiment.
Ouais, mais ça permet en tout cas d'être devant au championnat. C'est peut-être là finalement le compromis, cet équilibre haut trouvé par Red Bull qui a réussi en plus à faire beaucoup progresser la voiture sur les deux premiers tiers de la saison.
Oui, donc ça veut dire qu'ils ont produit une voiture à des coûts inférieurs puisqu'ils arrivent ensuite à injecter de l'argent dans le bureau d'études, à l'usine en soufflerie, de fabriquer de nouvelles pièces régulièrement pour se détacher. On parlait encore d'un châssis en préparation allégé dont les coûts s'élèveraient à 2 millions d'euros. Donc ils ont encore de la marge. Donc ça veut dire quand même que c'est assez contenu tout ça. C'est le vrai modèle pour gagnant, je dirais.
Oui.
Et il faut que Ferrari s'en rapproche. Et là, la différence des deux, on le redit, c'est vraiment le rythme de développement. C'est mieux répartir l'argent pour apporter des nouveautés et faire évoluer le matériel.
Oui, en tout cas, l'acuité dans le développement, manifestement, les développements ramenés par Red Bull ont fonctionné mieux que ceux...
Parce que la Red Bull était la deuxième voiture du plateau.
Hein. Oui, oui.
On s'en souvient en début de saison.
Ouais.
Voilà, donc ils sont démarrés moins fort et puis ils ont en fait regardé ce que ça donnait et après ça leur a donné une indication sur ce qu'il fallait développer. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire quand tu sais que tu veux imprimer un rythme de développement très très fort parce que tu as un bon concept. Adrien Newell savait, le directeur technique, en fait officiellement le chef du bureau technique, oui, qui est au-dessus le directeur technique français Pierre Vacher, mais il avait dans cette idée de produire une voiture avec beaucoup d'améliorations à faire, qui avait un potentiel de développement, mais là en fait plus important que de celle de Ferrari. Et tout ça c'est bien pensé et c'est des choses auxquelles ils ont beaucoup réfléchi l'année dernière.
Ensuite, en quatrième position, Alfa Romeo avec 76 000 euros, quasiment 77 000 euros de dépensés par point marqué. C'est une surprise de les retrouver là, mais finalement, ils sont plutôt bien placés. La cinquième place pour Alpine avec un budget pilote de 12 millions d'euros, 125 points marqués. On est là aussi sous les 100 000 euros, 96 000 euros pour la firme française. Cinquième au niveau du rendement, quatrième au niveau du classement des constructeurs. Bah là, ça se tient en fait. C'est, on va dire, rationnel.
Eh bien, c'est toujours ce qu'a prôné Laurent Rossi, c'est-à-dire vraiment des budgets contenus. C'est l'une des personnes qui pousse le plus pour le budget cap, pour ne pas dépenser ce qu'on a. C'est peut-être l'écurie qui va moins dépasser en termes de budget alloué, avec peut-être As aussi, parce que As ne fait plus de développement. Mais pour une écurie qui va finir quatrième au championnat, c'est un super rapport, je dirais, qualité-prix.
Exactement. La deuxième partie de ce classement avec AlphaTauri en sixième position, un petit peu plus de 106 000 euros par point marqué, donc par Pierre Gasly et par Yuki Tsunoda. Williams ensuite avec 125 000 euros par point. Et puis là, on arrive vraiment à un point important. Mercedes, huitième, donc antépénultième de ce classement. Ça me fait toujours plaisir de placer ce mot-là. 132 000 euros par point inscrit. Donc là, il faut comprendre, hein, on a un septuple champion du monde dans la maison, qui reçoit quand même des émoluments assez importants, hein, 45 millions d'euros par an pour Lewis Hamilton, et patatras, accident de conception sur la voiture, et vous galérez, on va dire, un bon tiers de saison avant de réussir à lancer quelque chose. Il y a un petit accident là chez Mercedes.
Mais normalement, c'est rentable, tout ça, il l'a prouvé depuis 2014, donc il n'y avait pas lieu de réduire son train de vie, exactement. Son salaire est fixe, il n'a pas un fixe, et puis des primes, je dirais, aux points marqués, aux victoires, etc. Il y a peut-être des systèmes après là-dessus, mais avec de tels émoluments, je ne pense pas, à part un titre de champion du monde. Mais ce qui veut dire que là, d'ailleurs, sur les salaires, Russell a un premier salaire, je dirais, chez Mercedes, de toute façon, qui avait évolué par rapport à son classement cette année au championnat. Ça se joue sur 1 à 10, même 1 à 11, le rapport entre les salaires de Russell et Hamilton.
Ouais, c'est 4 millions pour Russell et 45 pour Hamilton.
Ouais, tout à fait. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, Hamilton, qui était hyper rentable depuis 7 ou 8 ans, ne l'est plus du tout, mais c'est de la faute de Mercedes, tout simplement. Hein. Donc là, ça fait un prix très élevé, bah, c'est le double encore là de Red Bull tout simplement. Mm-hmm. Donc, et puis là, c'est presque la double peine parce que c'est ce que ça te coûte et ça rapporte moins parce que si t'es les revenus que tu touches du promoteur du championnat qui sont distribués à toutes les équipes sont proportionnels à ton classement.
Donc, au classement des constructeurs. Voilà, donc, d'où l'importance d'aller chercher cette deuxième place pour
tout
Mercedes.
À fait,
hein.
Aussi, donc c'est là où ça a un petit peu se sentir. Ils nous en parleront peut-être un petit peu après. Et c'est pour ça aussi que Mercedes, ils n'ont pas été non plus. Ils n'ont pas. Enfin. Ils ont beaucoup développé, ils ont cherché. Il y a eu une période un petit peu d'attentisme sur le premier quart de saison, on va dire, parce qu'ils ne comprenaient pas comment la voiture fonctionnait. Donc, ils n'ont mis aucune nouvelle pièce. Et là, par contre, ça y est, là, ça y va. Donc, ça veut dire qu'ils avaient encore des réserves. Bon, mais en attendant, bah, c'est en termes de rentabilité, la huitième sur les 10 écuries, c'est devenu assez médiocre, je dirais.
Exactement. Alors, en 9e,
sur ce plan-là, précisément, c'est tout.
On parlait d'accident au niveau de la conception de la voiture chez Mercedes. Accident aussi chez McLaren, qui emploie le 3e pilote le mieux payé du plateau, en la personne de Daniel Ricciardo. Et oui, mais seulement 107 points marqués par McLaren cette saison. Et ça fait un coût de 140 000 euros par point inscrit pour McLaren. Quand on sait que la situation de McLaren, la situation financière est déjà compliquée.
Ouais, ils sont criblés de dettes, ils ont eu des investisseurs mais qui n'ont pas couvert les dettes. Donc ils ont pérennisé, je dirais, l'activité de l'équipe. Mais il y a ces dettes qu'il faudra résorber un jour ou l'autre. Bon, ça me fait penser à Zak Brown qui se vantait d'avoir la meilleure paire de pilotes en début de saison, Ricciardo, Norris. Bon, bah là, c'est pas vrai, clairement, quoi. 10 millions d'euros pour 19 points. Et quand je pense que Ricciardo touchait 26 millions d'euros chez Renault, il a divisé son salaire par 2,5 pour arriver à ça. Là encore, c'est le flop de l'année.
Dans ton article, hein, t'avais calculé hein, 526 000 euros par point marqué pour Daniel Ricciardo. Voilà. Rien que lui, voilà. Au secours. Mais bon, voilà, on l'a dit, il n'arrive plus à exploiter cette voiture et forcément, ça plombe clairement le budget de chez McLaren. Et puis on termine par Aston Martin avec 360 000 euros par point marqué. Donc c'est de très très loin. On vous rappelle, hein, si on prend la référence Red Bull, un peu plus de 60 000 euros là, par point marqué. Aston Martin, on est à des années-lumière. Est-ce qu'il n'y a pas une part de logique? C'est-à-dire qu'on a fait venir un pilote qui a été 4 fois champion du monde, ça sera encore le cas l'année prochaine avec l'arrivée de Fernando Alonso qui ne va pas arriver pour un SMIC, mais c'est le début de l'aventure, donc il faut encore se lancer, c'est l'investissement en fait pour Aston.
C'est quelqu'un qui te permet, un grand pilote comme ça, de te mettre au meilleur standard, ou en tous les cas de dire, voilà, dans tel et tel secteur, il faut faire des efforts, ils sont d'ailleurs en train de recruter, en termes techniques aussi, mais... ce pilote-là ne va pas voir la nouvelle écurie, je dirais, qui va émerger à peu près d'ici 2 ans. Voilà. C'est un petit peu le même problème, ils ont fait le même pari, avec un résultat plus décevant à proportion qu'Alfa Romeo, avec Kimi Räikkönen, on prend un champion du monde qui a gagné plusieurs Grands Prix, c'était déjà quand même il y a pas mal de temps, et on va voir s'il est capable de nous booster. Sauf que Räikkönen, ça n'était pas un technicien dans l'âme, quelqu'un qui s'intéressait au fonctionnement même de l'usine, en ingénierie, qu'est-ce qu'il faut, en force de frappe, voilà. Mais Vettel a apporté ça quand même. Et si l'équipe est meilleure, ce sera le résultat quand même de cette collaboration. Ça se paye très cher pour l'instant. Mais je dirais qu'il a fait le travail un petit peu pour Alonso aussi. Alonso va continuer ça. Oui, oui. Et il sera bien content d'avoir eu Vettel à la barre pendant 2 ans pour incrémenter en fait un petit peu le curseur.
Mais
là-dessus,
on est d'accord que
c'est
pas scandaleux. Mais alors c'est décevant parce que c'est voilà, l'avant-dernier McLaren à 140 000 euros du point, 360 000, hein, c'est plus du double. Il y a vraiment un gouffre là entre les deux. On est loin du compte. C'est pas illogique, mais on est quand même très loin du compte pour Aston Martin. C'est une saison qui est quand même très très décevante avec cet indicateur.
Oui, je trouve, parce que on attend que ça décolle. Et puis là, on n'a rien vu, tout simplement. Et puis en termes de développement, on nous parle de... Il n'y a plus rien, quoi, tout simplement. C'est comme McLaren, hein. Ce sont deux écuries qui s'écroulent et qui ont perdu le fil depuis longtemps. Et puis, ce n'est pas un Lance Stroll qui va s'intéresser au développement technique. Il a envie qu'on lui donne du prêt à gagner. Bon, ben, ce n'est pas pour demain. Et je dirais même que là, c'est un modèle qu'il faudra remettre en question parce que l'an prochain, ils auront un vétéran. Ils auront un pilote quand même gâté. très gâté par le père et qui n'est pas là non plus pour apporter un boost spécial. On regardera, on fera le classement tous les ans de ce ratio là comme ça, voir
ça
si
Aston
Martin n'est pas bien. Mais ils seront quand même mieux déjà avec, avec Fernando Alonso.
Voilà donc pour cette édition des Fous du Volant pré-Grand Prix de Singapour 2022. On peut peut-être quand même vous donner une dernière information importante, les horaires du Grand Prix, les horaires importants. Les voitures prendront la piste pour la première fois ce week-end, vendredi à partir de midi, heure française, pour la première séance d'essais libres. La qualification, ça sera samedi à partir de 15h. Et le Grand Prix, attention, c'est 14h, heure française, pour ce Grand Prix de Singapour qui va lancer la dernière salve des 6 grands prix de cette fin de saison. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner, et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on est complet?
Je crois.
Bon.
La phrase consacrée.
Exactement, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là,
on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.